En ce 10 octobre, à Rencontre spirituelle, j'ai cru devoir retenir un seul saint, car c'est un des plus grands de l'histoire de l'Église. C'est un jésuite, mais aussi c'était auparavant le duc de Gandhi, l'un des hommes les plus puissants d'Espagne. Tout ça se passe au 16e siècle, au moment de l'apparition du protestantisme, au moment du Concile de Trente, au moment de l'expansion particulièrement des jésuites nouvellement fondés par saint Ignace de Loyola. Saint François de Borgia, qui était marié, père de famille nombreuse, et qui s'est fait jésuite. C'est vraiment un des saints les plus extraordinaires de l'histoire de l'Église. Il est même considéré comme le second fondateur de ce grand ordre des jésuites qui, malheureusement, dans notre pays, au Québec, est en train, on dirait, de disparaître puisqu'ils ont perdu leurs 5 collèges. Saint-Charles Garnier à Québec et à Montréal, Saint-Ignace, le collège Sainte-Marie, le collège Brébeuf, et finalement le collège anglophone Loyola. C'est pénible et ça fait mal de penser que ces hommes qui ont tant travaillé dans notre pays au Québec depuis le tout début sont en train de disparaître faute de vocation. Et c'est la même chose en France. Alors je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui en leur parlant et en parlant à tout le monde de Saint François de Borgia. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. François de Borgia a d'abord été dans le monde un riche, un de ceux dont Jésus dit qu'il est plus difficile à eux d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Le trou de l'aiguille, semble-t-il, d'après les exégètes, c'était un trou dans le mur de la ville de Jérusalem, un trou assez bas. Et pour qu'un chameau y passe, il fallait qu'il se glisse presque par terre et qu'il rampe. C'est une interprétation, car autrement, c'était vraiment le chat d'une aiguille véritable, ce serait évidemment impossible pour un riche d'entrer au ciel. Or, il y a des riches au ciel, et François de Borgia en est un. Il était comblé d'honneur à la cour d'Espagne. C'était le petit-neveu de cet épouvantable pape qui est Alexandre VI, qui est en bonne partie à la source de la réforme qui s'est faite en dehors de l'Église par nos frères protestants, qui ont été dégoûtés vraiment de l'Église catholique dans certains de ses aspects, particulièrement par la conduite de ce pape. Qu'il suffise de rappeler que quand Alexandre VI est mort, on a exposé son corps au Vatican, derrière des grilles à la foule romaine. Et les Romains ont crié des injures au pape et ont essayé de défoncer les grilles pour s'emparer du corps pestilentiel de ce pape qui puait déjà terriblement l'espace de quelques heures pour le jeter dans le Tibre, dans le fleuve qui coule à Rome. Le peuple avait un énorme mépris pour ce pape abominable. Mais c'est un pape qui n'a pas fait d'erreur sur le plan dogmatique et qui n'a pas conduit l'Église de façon terrible. C'est sa conduite qui était immorale. Donc, il était petit-neveu de ce pape Alexandre VI, Alexandre Borgia, qui est immoral. Donc, il était petit-neveu de ce pape Alexandre VI, Alexandre Borgia, par son père. Il était aussi petit-neveu de Ferdinand le Catholique par sa mère, et il est né, lui, François de Borgia, en 1510, comme vous voyez. C'est à peine une dizaine d'années avant le schisme, la séparation par les disciples de Luther, et un peu plus d'une vingtaine d'années avant le schisme qui s'est opéré en Angleterre avec Henri VIII. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était marié. Il a eu, de l'âge de 20 ans à 28 ans, il a eu 8 enfants. Il a mené une vie conforme à son rang. Et même une vie assez vertueuse malgré tout, car il n'a pas été un riche dissolu. D'ailleurs, il a fait 3 rencontres qui vont concourir à son évolution spirituelle et au fait qu'il a remis toute sa vie en question. Il le dira lui-même, d'ailleurs, dans son journal spirituel. Il a écrit un journal durant les dernières années de sa vie, qui nous est resté, d'ailleurs. Et la première rencontre qu'il fait, qui le transforme, la première de ces trois rencontres, c'est la mort. Il a vu le cadavre de l'impératrice Isabelle d'Espagne. Elle n'avait que 36 ans. Lui en avait 29. Il la connaissait très bien. Et ça lui a fait prendre conscience de la vanité des grandeurs de ce monde. Quand on voit d'ailleurs un cadavre dans sa tombe au salon funéraire, on se rend bien compte qu'il a tout quitté. Et il n'y a rien de plus dramatique quand on assiste, juste avant les funérailles, à la fermeture du tombeau. Et je pense que c'est encore plus dramatique quand on va au cimetière et qu'on voit la tombe qui descend dans la fosse. Je me souviens d'avoir soutenu ainsi mon frère aîné, qui à 45 ans avait perdu sa femme, qui n'en avait que 42, dans une épidémie de polio, et je l'avais soutenu, car quand la tombe est descendue au cimetière de la Côte-des-Neiges, et qu'il restait avec 6 enfants de 17 à 5 ans, la douleur était immense, car il a aimé sa femme jusqu'à sa mort il y a 2 ans. Il a toujours aimé sa femme. Et c'est très dur, très dur. Ce contact avec la mort nous fait prendre conscience de la vanité des choses, mais aussi de la grandeur de notre vie intérieure et de la présence de Dieu en nous. Et les deux autres rencontres que François de Borgia a fait, c'est celle d'un jésuite dont la prédication l'a marqué profondément. Certains disent que ce serait Ignace de Loyola lui-même, mais je crois que c'est une erreur. Il a aussi rencontré un simple frère convert, franciscain, qui était un peu exalté. Disons, aujourd'hui, par taquinerie, je le dis sans méchanceté, un peu charismatique. Et parce que j'ai beaucoup de respect pour le renouveau charismatique dans tout ce qu'il a de positif et d'admirable. Et ce convert, franciscain, un simple frère, dont la vertu et la ferveur rayonnaient dans son regard et dans tout ce qu'il faisait, a touché le cœur de ce grand Semon, de ce duc de Gandhi qui vivait dans un palais fantastique. Il faut voir les photos du palais de Gandhi en Espagne. Ce sont des pièces décorées comme celles d'un roi. Il avait d'ailleurs toute une suite, des quantités de serviteurs. Il a commencé, après sa conversion, une vie de prière et d'ascèse qui vont le mener à mourir d'épuisement à Rome en 1572 à 62 ans. Et finalement être canonisé dans l'admiration générale assez tôt, un siècle plus tard, en 1671. Il disait « Mes liens sont brisés, je suis délivré au nom du Seigneur, c'est au moment de sa conversion. Mes liens sont brisés, je suis délivré au nom du Seigneur. » Il était partagé, après sa conversion, entre les pénitences, la prière, mais de lourdes responsabilités. Il y avait ses enfants déjà, hein? Mais il y avait aussi les responsabilités que l'ordre des Jésuites lui ont données, c'était fantastique. Et c'était une vie durant laquelle on peut dire que Dieu a exaucé pleinement son vœu. Quel était son vœu? C'est un très beau vœu que je vous invite tous à faire. Nous devrions tous faire ce vœu, que le Seigneur ne permette pas que je sois un serviteur inutile. En d'autres termes, que je ne perde pas mon temps et ma vie, que je cesse de faire des inutilités et que je pense d'abord à mon salut. Il faut s'aimer soi-même et penser au salut des autres, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le salut? La libération, la rencontre du Christ, que le Seigneur ne permette pas que je sois un serviteur inutile. Il a laissé des opuscules, comme on dit, des petits livres de piété, mais c'est d'une piété profonde, vaste. C'est pas de la petite piété. Il a laissé aussi une correspondance abondante, ce François de Borgia. Il y a aussi des témoignages de contemporains, en particulier celui du fameux père Nadal, N-A-D-A-L, dont je vous parlerai un jour, un jésuite éminent du tout début des jésuites. Il a laissé ce journal spirituel dont je vous ai parlé, qu'il a écrit durant 4 ans, de 1564 à 1568. Et ça, c'est pas peut-être pas grand-chose, mais ça permet quand même d'approcher la forte personnalité de Borgia. C'était un homme qui ne ressemble pas vraiment à cette espèce d'image que l'on a laissée souvent de lui, d'un ascète austère et rigide. C'est des biographes, ceux qui croient toujours que la sainteté doit être triste. C'est faux chez lui, grandement faux. Il est allègre, d'après les contemporains. Allègre, ça veut dire joyeux, gai. Il est content aussi. Il est heureux de tout ce qu'il a pu poser comme geste dramatique, de tout quitter pour se faire extrêmement pauvre. Il parle aussi aux gens avec beaucoup d'enjouement. Il dit même à un moment donné, alors qu'il se dispute avec, alors qu'il est général des Jésuites, il devient général des Jésuites, le troisième, après Ignace de Loyola. Car quand il est entré chez les Jésuites, il n'y en avait que 40 Jésuites dans le monde. C'était une petite bande d'exaltés, au fond, que les Jésuites, aux yeux des grands ordres, comme les bénédictins, les franciscains bien établis, les dominicains, tous ces grands ordres qui avaient d'immenses couvents un peu partout, de grandes bibliothèques, et une aspiration à un certain pouvoir, certains d'entre eux étant devenus papes, cardinaux, évêques, archevêques, etc., ou grands théologiens. Mais ces jésuites, qui était-il quand il est entré là? Et il disait, en se disputant un peu, « Si ça continue comme ça, je vous menace, je me retire dans une chartreuse. » Je vous en ai parlé vendredi dernier de Saint-Bruno et de ces chartreuses qu'il a fondées, la Grande Chartreuse. Ces ermites qui vivent complètement isolés de notre monde. Mais au fond, qui sont au cœur de notre monde par la prière, à l'intérieur du corps mystique. Il avait une sérénité, François de Borgia, qu'il a conquise en luttant contre un tempérament ardent. C'était un Borgia, c'est-à-dire il appartenait à une grande famille. Quand quelqu'un naît dans une très grande famille comme ça, il reçoit une éducation très jeune qui lui permet d'être fier, d'être parfois un peu orgueilleux, un peu tranchant. Et puis, en plus ça, bien, il venait de la région de Valence, et on dit des Valenciens que ce sont des gens qui ont énormément de caractère. Un jour où les passants s'étaient attroupés pour le regarder passer à Valladolid, le père Nadal rapporte de lui cette boutade, « Ils me regardent comme une bête curieuse et ils ont raison. Si Dieu ne m'avait enchaîné par les liens de la religion, il n'avait fait de moi un jésuite, je serais une bête fauve. » Et c'est vrai, hein? Dieu peut transformer des gens qui seraient devenus des êtres terribles en des saints. Il était grand, François de Borgia. Et, chose assez encourageante pour certains auditeurs, il était corpulent. C'était un gros bonhomme. Bon, il était élégant et mince quand il était adolescent, c'était un très beau garçon, mais il est devenu très gros probablement par la bonne chair, l'aisance, le pouvoir, la richesse. Il était puissant. Et c'est sa volonté de dominer ses passions qui lui a permis de se changer. Il a toujours voulu témoigner à tout moment, en se contrôlant, d'une charité exquise, comme on disait. Vous savez, parfois on rencontre ces gens d'une charité exquise. Ils nous frappent, parce qu'au fond, ils sont rares. Et je ne parle pas de ceux qui ont lu Dale Carnegie, « Comment se faire des amis ». Je parle de ceux dont la charité vient du fond du cœur, vient de cette présence du Christ en eux, cette générosité affable. Et elle a été notée par ses contemporains. Oh, il a eu des excès d'ascèse. qui ont marqué le début de sa vie religieuse. Et ce début de sa vie religieuse a été une vie religieuse secrète. Car pendant 2 ans, il a été un jésuite secret, dans son palais, par une permission spéciale du pape et d'Ignace de Loyola. Sa vie a évolué au cours des années, en même temps que sa compréhension de sa véritable vocation de jésuite. On retrouve dans son journal spirituel certaines choses qui éclairent, comme ça la conversion de ce grand François de Borgia. Elles font allusion, pour rappeler l'anniversaire, à la mort de l'impératrice Isabelle, je vous le rappelle, le 1er mai 1539, quand il l'a vue dans son cercueil noir. Ça a porté brusquement là un éclairage tout neuf sur ce qui l'habitait, mais ce qui habitait les gens, son entourage. Qu'est-ce qui les habitait? La même chose que la plupart de nos gens aujourd'hui au Québec, au Canada, aux États-Unis, en l'Occident, partout dans le monde, la course aux honneurs, la course à la vanité de la vie mondaine, la course à la satisfaction matérialiste, personnelle et égoïste de son petit moi. Un jésuite, Paul Ancaux, précise dans une chronique extrêmement intéressante qu'il a écrite, « Comme Borgia revenait de Grenade en litière, j'explique ce que c'est une litière pour le cas où quelques personnes ne seraient pas, c'est au fond une espèce de chaise à porteur, ou plus que ça même. C'est presque un tout petit appartement porté par 4 personnes, ou même 8. Alors il était en litière, et il fut tellement éclairé de la grâce qu'il venait de recevoir, après avoir vu l'impératrice Isabelle morte, qu'il s'est pris à songer sérieusement à réformer sa vie, alors qu'il était encore marié et père de famille. Et très courageusement, il a commencé. Savez-vous à quoi? À s'adonner à l'oraison, l'oraison. Je vous en parle souvent et c'est très difficile. Hein? L'oraison. Être en silence avec Dieu en soi. Être simplement dans un silence d'adoration, de tendresse, d'écoute, malgré toutes les distractions. L'oraison ne va pas sans distraction. Mais c'est l'intention qui mène à une prise de conscience toujours plus grande de la platitude de nos vies et de la grandeur qu'elles peuvent prendre, nos vies, quand on met Dieu au cœur. Il s'adonnait aussi à la lecture, et à la lecture de vie de saint. Et même à la mortification, lui qui était gros et adepte d'une certaine aisance. Et avant cette date clé du 1er mai, François de Borgia menait déjà une espèce d'existence pieuse, comme je vous le disais tout à l'heure. Il accomplissait en chrétien ses devoirs de grande Espagne. Et il était le fils aîné, n'est-ce pas, de Jean de Borgia, qui était le duc de Gandie, et de Jeanne d'Aragon, qui était vraiment une femme extrêmement importante. Il avait reçu une éducation conforme à son rang auprès de son oncle, qui était l'archevêque Jean d'Aragon. Puis il avait aussi été élevé à la cour de Tordesillas, comme page. Vous savez ce que c'est qu'un page, hein? De la sœur de Charles Quint, l'empereur Charles Quint. On vantait son adresse au tournoi. C'était un jeune plein courage, grand, mais disons qu'il était adepte des sports, hein? Car les tournois, ben, c'était des joutes de chevaliers armés. C'était assez dangereux. Hein? Il avait de grandes qualités de cavalier. Il avait une grande courtoisie, une discrétion, une pureté dans ses mœurs. Il ne s'amusait pas avec son corps, avec le corps des autres. Il était pur. Pour un homme de cette puissance, c'est assez héroïque dans un sens, et l'empereur qui l'aimait a organisé son mariage avec Éléonore de Castro. C'était la demoiselle d'honneur de l'impératrice Isabelle. Celle qui est décédée ce 1er mai 1539. Il lui a accordé le titre de marquis de Lombay en 1530. Il avait 20 ans seulement. Il est attaché au service de l'impératrice. Il a accompagné la cour dans tous ses déplacements, logeant au palais, suivant de près l'éducation du prince héritier, Philippe. Et une maladie l'a tenu couché pendant plusieurs mois en 1533, donc à 23 ans. Il a su profiter, un peu à l'exemple d'Ignace de Loyola qui avait été blessé à la guerre, du fait de rester couché, d'être malade. Il a lu des traités ascétiques, c'est-à-dire des traités sur la conduite qu'on doit avoir pour se discipliner et faire grandir en soi la présence de Dieu. Puis il a lu les épîtres de saint Paul. Qui lit aujourd'hui les épîtres de saint Paul? Si nous étions plus adeptes des épîtres de saint Paul, nous entrerions dans le grand mystère chrétien et dans la foi profonde de ce grand apôtre juif jusqu'au fond du cœur, qui s'est converti de façon miraculeuse et qui a été l'exemple du grand missionnaire pour tous les siècles à venir. François de Borgia composait à cette époque, savez-vous quoi, de la musique. Il aimait beaucoup la musique. Il a composé des motets qu'on chantait dans les églises. Il nous en est resté une messe et peu de choses. Peut-être qu'on trouvera un jour des manuscrits dans des bibliothèques en Espagne ou en Italie. Pendant toutes ces années, l'empereur Charles Quint lui a témoigné son estime, l'amenait avec lui en campagne, c'est-à-dire à des guerres. Et quant à sa vie privée, elle n'était pas moins comblée auprès de son épouse, qu'il aimait, et qu'il l'aimait, et qui lui a donné en 1537, au bout de 7 ans, son 7e enfant, un par année. Il en est né un autre en 1538 d'ailleurs. La mort brutale de l'impératrice en 1539, non seulement ça lui a fait méditer sur la mort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça a ébranlé la sérénité de son équilibre. Il a été privé de son emploi. Et Borgia a été nommé par l'empereur vice-roi de Catalogne. C'était une tâche difficile, car la Catalogne est un pays, une province, si on veut, mais c'est un pays qui a une province, si on veut, mais c'est un pays qui aspire depuis des siècles à sa liberté. Quand j'étais en Catalogne, la première fois en 1950, je suis allé à l'abbaye du Montserrat, qui est au cœur de la Catalogne, une immense abbaye bénédictine, et on disait que c'était au cœur de ce monastère que s'agitaient le plus les Catalans pour l'indépendance de leur pays. C'était des moines, ou bien des savants qui vivaient parmi les moines. La Catalogne est un pays aujourd'hui très industrialisé. C'est un pays remarquable. C'est eux qui nous ont donné ces Jeux olympiques admirablement bien organisés à Barcelone. Il y avait là, au temps de François de Borgia, certains méfaits de bandes de pillards qui cherchaient à libérer la Catalogne. Et les grands seigneurs favorisaient tout ça car ils voulaient leur liberté, la liberté de leur peuple, qui parle une langue différente de celle de l'Espagne. La Catalogne est située juste à la frontière Espagne-France et ça donne sur la Méditerranée, à l'encontre de cet autre pays qui est le Pays Basque, qui donne sur l'Atlantique et qui déborde comme ça en France et en Espagne et qui cherche aussi son indépendance. Alors, François de Borgia a manifesté par son jugement et sa fermeté une conscience inébranlable du devoir. Et le nouveau vice-roi a eu à exercer en Pologne des qualités d'homme d'État qui ont éclaté 25 ans plus tard dans sa charge de supérieur de la Compagnie de Jésus, des Jésuites. Il a su résister aux pressions et aux intimidations que lui ont opposé les nobles, les seigneurs qui étaient soucieux de leur indépendance. Il disait, François de Borgia, « Je dirige tous mes actes selon le service de Dieu et de sa majesté. Pouvait-il écrire à l'empereur Charles Quint en 1541? À propos d'une affaire où son autorité était mise à l'épreuve, 4 ans se passèrent ainsi en Catalogne à remettre de l'ordre dans cette province ou de ce pays. Lorsqu'en 1543, le vieux duc de Gandie, son père, est venu à mourir, et François de Borgia a dû reprendre le titre. Et il a été rappelé par l'empereur. Alors Charles Quint destinait notre nouveau jeune duc de Gandie à de grands honneurs. Il voulait lui confier la charge de majordome de la maison de son fils, le prince Philippe, et de sa future épouse, qui était l'infante de Portugal. La fille du roi et de la reine du Portugal, ce pays séparé de l'Espagne et pourtant qui fait partie de la grande péninsule ibérique. Tout petit pays, le Portugal, comparé à l'Espagne, séparé de l'Espagne. Et en fait, l'affaire a échoué parce que il y a eu des maladresses diplomatiques. La reine du Portugal n'aimait pas Éléonore, la femme de François de Borgia. Elle s'est opposée à la nomination de François de Borgia. Et cette semi-disgrâce fut une étape décisive encore. On dirait que Dieu l'attend toujours dans son cheminement intérieur. Parce que ça l'a obligé à une longue retraite. Il n'y a rien comme des retraites. Alors, venu pour un mois dans son palais de Gandie, afin d'y régler la succession de son père, il y est demeuré 7 ans. 7 ans de retraite. Avec sa femme, ses enfants. Et le jésuite qui l'a le plus transformé, c'est Antoine de Araos, qui l'avait émerveillé dans sa prédication, et c'est pas Ignace de Loyola, comme disent d'autres. Ça s'est déroulé, ça, à Barcelone. Et quant au frère franciscain dont je vous ai parlé, c'était Jean de Texada. Il avait une réputation de vertu. Il avait une ferveur extraordinaire. Il s'était parvenu jusqu'à François de Borgia. Donc, à Gandie, pendant 7 ans, notre nouveau duc a mis sa fortune au service de sa province. Et en 1543, là, il a fondé un couvent dominicain à Lombé, puisqu'il était, il portait ce titre de Lombé, qui lui avait été donné à 20 ans. Et ce couvent dominicain était destiné à évangéliser qui? Les musulmans qui avaient conquis une partie de l'Espagne. Et un an plus tard, il a demandé au père jésuite Araos d'ouvrir un collège de jésuites. Il en ouvrira beaucoup de collèges de jésuites. Et insensiblement, François de Borgia oriente sa vie vers un don plus total. Et là, le dernier arrachement se fait en mars 1546, à 36 ans seulement, lorsque sa femme, la duchesse de Gandie, malade depuis plusieurs mois, meurt. Et là, la décision préparée par des années de réflexion et de prière a été rapidement prise. Et un mois seulement après le décès de sa femme, le père Favre, il va falloir que je vous parle du père Favre, qui est un jésuite extraordinaire, qui était de passage à Gandie, lui a fait faire les exercices spirituels. J'espère que vous avez déjà fait ça, on peut les faire à Saint-Jérôme chez les jésuites. Et là, le 2 juin, devant le père Viedo, il a prononcé le vœu d'entrer dans la compagnie de Jésus chez les jésuites, et l'année suivante, il s'est préparé dans le secret à sa nouvelle vie en étudiant la théologie et en se soumettant à toutes sortes de mortifications rigoureuses, et on verra la montée de ce saint. Ce fut à l'époque, donc, de sa conversion, après la mort de sa femme, qu'il a été tenté par une ascèse, c'est-à-dire une pratique de mortification un peu exagérée. Ça arrive souvent chez les grands convertis. Hein. Lui qui était si riche voulait passer à des excès, quoi. Il était au fond un postulant, quelqu'un qui postulait son entrée chez les jésuites. Il lui ordonnait de réduire ses jeûnes, d'abréger ses oraisons. Et pour le reste, le général des jésuites, Saint Ignace, lui laissait toute liberté de fonder des collèges, puis de distribuer des aumônes. Alors une partie de ses biens immenses a servi à l'édition des exercices spirituels. Vous pouvez vous acheter ce livre, ça coûte pas cher, les exercices spirituels. Commencez à les lire, mais vous rendre un jour, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Saint-Jérôme, pour les pratiquer, les exercices spirituels, et transformer vos vies. Alors, la situation demeurait un peu ambiguë. Hein? François de Borgia avait de la misère à renoncer à ses titres, à ses pouvoirs, à cette vie de cour où Charles Quint, l'empereur, le rappellerait forcément d'un jour à l'autre. Pas parce qu'il y tenait, mais parce que ça lui semblait être une espèce d'obligation, de reconnaissance, et ce sont des tâches importantes qu'il accomplissait. Comment quitter des responsabilités, hein? Alors, il y a eu une intervention énergique à un moment donné de Ignace de Loyola. Il a sollicité du pape la permission pour un laïc, qu'il n'a pas nommé, de faire sa profession tout en restant encore dans le monde. Faire sa profession, ça veut dire s'engager par vœu devant Dieu d'être chaste, d'être pauvre, d'être obéissant au nom d'une congrégation en particulier, les jésuites. On peut faire aussi des vœux privés comme ça, sans attachement nécessairement à une congrégation, mais c'est plutôt rare. Et ça se fait aujourd'hui. Des laïcs dans le monde, ici à Montréal, émettent des vœux ainsi. Donc, le 2 février 1548, le duc de Gandie a émis ses vœux solennels. Les deux années suivantes ont été occupées par, évidemment, l'établissement de ses enfants. Il fallait qu'il les établisse, pas pour s'en débarrasser, mais pour voir à leur éducation, pas leur avenir. Il a fallu aussi qu'il signe son testament. Et puis, en plus de ça, ben, il avait fait des études pendant de nombreuses années de théologie. Alors, il a obtenu son diplôme de théologie. Enfin, le 31 août 1550, 2 ans après avoir émis ses vœux, il a quitté Gandie pour toujours. Ça, c'est un événement qui a ébranlé l'Espagne. Ce grand Espagne qui n'existe plus et qui se fait novice jésuite. Il redouble de modestie et d'humilité à Rome, où il demeure 6 mois, en s'entretenant chaque jour avec Ignace de Loyola. Bien, François de Borgia se pénètre de l'esprit de cette nouvelle compagnie de Jésus. Il travaille activement à la fondation du Collège romain. Il écrit une longue et belle lettre à Charles Quint pour lui faire part de sa résolution, et aussi pour le prier de transférer à son fils le duché de Gandie, avec duché de Gandie, avec toutes les dépendances, les palais, les terres, les milliers de gens qui dépendaient de ce duché, et la quantité énorme de serviteurs et tout ça. Et son secret commence à percer, évidemment, et lorsqu'il rentre en Espagne au printemps 1551, bien, la foule l'acclame, c'est le duc saint, ou le saint duc, qui a bien du mal à échapper aux honneurs, hein. Alors il se retire dans un petit ermitage où il s'adonne à la prière et à la pénitence, et au mois de mai, il est ordonné prêtre. Et là, il célèbre sa première messe, pas n'importe où. Il la célèbre le 1er août à Loyola, là où était né le fondateur Ignace. J'y suis allé à Loyola. C'est des endroits où il faut aller méditer sur ces grands saints, comme aller à Manresa, où Ignace de Loyola s'est transformé. Le petit ermitage de François de Borgia ne tarde pas à se transformer en quoi? En espèce de cour. On veut se confesser au Père François. On se rue dans les églises où il prêche. On l'appelle l'apôtre, car il sillonne les campagnes pour exciter les fidèles à la conversion. Et là, sa bonté souriante, dont je vous ai parlé tout à l'heure, son tact, sa simplicité, ça lui ouvre les cœurs de milliers de gens. Et en 1552, bien, il est chargé d'une délicate mission au Portugal. Ça commence. Il est accueilli avec vénération par les mêmes souverains portugais qui, 10 ans plus tôt, n'avaient pas voulu de lui. 2 ans plus tard, en 1554, le Père Nadal, le fameux jésuite, lui confie au nom de Saint-Ignace la charge de commissaire général des provinces d'Espagne et de Portugal. C'est un titre important, mais ça l'oblige à voyager et à voir à l'organisation. L'homme, donc, qui avait embrassé l'état religieux, qui s'était fait jésuite pour fuir le pouvoir et les honneurs, le voilà qui est accablé de responsabilités. Et Charles Quint le propose Imaginez, pour qu'il devienne cardinal, là, le père François de Borgia demande la permission à son général de prononcer les vœux simples de prophète de la Compagnie de Jésus cette fois-ci, dont l'un des vœux impose la renonciation à toute dignité. Saviez-vous que les jésuites, en principe, n'acceptent aucun titre de cardinal? Pourtant, on a eu le cardinal de Lubac, le cardinal Danielou dernièrement. Et ils ne sont pas supposés accepter de titre d'archevêque ou d'évêque. Il y en a eu quelques-uns. C'est rare. En général, les jésuites n'acceptent pas ces dignités, comme on dit. Alors là, François de Borgia fait une espèce de synthèse dans sa vie de l'action puis de la prière. La fille de Charles Quint, qui devient régente du royaume, se met sous sa direction spirituelle. Des grands seigneurs d'Espagne le prennent pour confesseur. Il rend visite chaque jour durant 2 mois à la vieille reine, la mère de Charles Quint, Jeanne la Folle, quel nom, hein, qu'il secourt dans ses derniers instants et elle meurt. Il fonde des noviciats, des collèges. Il organise entre 1554 et 1556 les missions d'Amérique, en Amérique du Sud. Il recueille des aumônes qu'il envoie au collège romain, où on forme les futurs jésuites. Il rend visite à Charles Quint dans sa retraite de Yusuf, car Charles Quint s'est retiré chez des hiéronymites, ce sont des ermites de Saint-Jérôme. Et là, Charles Quint l'invite à le voir, il le charge d'une mission à Lisbonne à propos de la succession du roi Jean III de Portugal. L'empereur Charles Quint finalement meurt en 1558 et François Borgia n'a pas pu venir auprès de lui pour son agonie, mais il a prononcé son éloge funèbre à Valladolid. Puis en 1559, Philippe II entre en Espagne. Il est mis en garde par des envieux contre son ami d'enfance, François de Borgia, parce que l'Inquisition avait trouvé dans les écrits de François de Borgia des textes qui auraient été condamnables, mais c'était pas des textes de François de Borgia, c'était des textes qui avaient été interpolés, comme on dit, insérés dedans. Alors, il l'a traité avec froideur, et Borgia passait 2 ans au Portugal. Puis là, il se rend à Rome. Imaginez, c'était des promenades interminables, incroyables, que ces gens faisaient. Et là, il se rend donc à Rome en 1561, et bien vite, son exemple anime qui, bien, nul autre que le futur Saint Pie V. Et ça anime aussi Saint-Charles Borromée, l'archevêque de Milan. Que de saints à cette époque, hein? Et en 1564, bien, François de Borgia est élu assistant général pour l'Espagne, donc, et le Portugal. Mais là, en 1565, vicaire général de la Compagnie, puis le 2 juillet de cette année-là, il est élu général. On lit à cette date dans son journal intime des phrases bouleversantes. C'est écrit « J'ai demandé de faire le plus agréable au Seigneur ». Ce qui m'a consolé. Désir d'être à lui dans la mort et dans la vie. C'est un puissant de ce monde, hein, qui est converti au point de dire que son seul désir, c'est d'être au Seigneur, dans la mort et dans la vie. Il écrit aussi « Espoir de n'être pas abandonné ». Il y a des craintes. Nous avons tous des craintes quand nous nous donnons d'être abandonnés tout à coup par Dieu. Il écrit aussi « Je lui ai demandé ses vertus pour moi et la compagnie ». Et à un moment donné, il dit « Consolation, dies me crucis », c'est-à-dire « Jour de ma croix hein, », si vous voulez. C'est le jour où il est élu comme ça, général, responsable de tous les Jésus. Il est âgé de 55 ans, ce moment-là. Il est élu par 31 voix sur 39. C'est énorme. Mais sa corpulence, jadis, je vous avais dit qu'il était gros, mais avait fait place à une maigreur ascétique. Il souffrait de la goutte. La goutte, ça fait souffrir les jambes de façon abominable. Il avait aussi une dilatation d'estomac. Un jésuite me disait hier qu'il avait tellement maigri qu'on raconte, je vous le dis pour ce que ça vaut, ça va vous faire rire, mais c'est pas le moment de rire, mais enfin quand même, pour rire un peu, qu'il pouvait faire un nœud avec la chair pendante de son ventre, tellement il avait maigri. Il s'est donné sans réserve à sa fonction qui l'écrasait, qui le mettait en relation avec toute l'Église militante du monde entier par les missions jésuites. Il a envoyé des visiteurs, des inspecteurs dans les provinces européennes de la compagnie, jusqu'au Brésil, au Japon, dans l'Inde. Il a réformé les missions de l'Inde et de l'Extrême-Orient. Il a même créé, comme je l'ai dit, celle d'Amérique. Mais là, arrivent coup sur coup des martyrs, 50 martyrs d'un coup, avec les compagnons d'Ignace Azevedo, le fameux jésuite. Je vais vous parler de lui le 15 juillet de l'an prochain. Alors là, on édite les règles des jésuites. C'est terminé en 1567. Et à Rome, dans les provinces, il vient à établir des noviciats, des maisons d'études. Il statue qu'une heure par jour, il serait réservé à l'oraison. Il y tient à l'oraison. Il a terminé en 1567, cette même année, la maison de Saint-André du Quirinal, où ont vécu Saint Stanislas Kostka, dont je vous ai parlé déjà, et le futur martyr Rodolphe Acquaviva, qui a été martyrisé en Inde. Je vous en parlerai aussi au mois de juillet l'an prochain, cette fois-là le 25 juillet. Et cette même année, il a édifié l'église du grand collège romain qu'il a projeté, qui est devenue l'université grégorienne, et d'où vient le nom de grégorienne? Ça vient du pape Grégoire XIII, qui a favorisé les missions et la réforme aussi du calendrier, dont je vous parlerai un peu lundi prochain, où il a fait sauter du 4 au 15 octobre l'univers entier. Il n'y a pas eu de 5 au 14 octobre. Ça n'a jamais existé. Je vous en parlerai lundi parce que Thérèse d'Avila est née dans la nuit du 4 au 15 octobre. Et voilà qu'il a contribué, François de Borgia, à la construction du Jésus, cette grande église jésuite de Rome, et surchargé d'occupations et de soucis. Ce général des jésuites tournait en prière et en intention et en offrande à Dieu toutes ces distractions qui l'obsédaient et qui l'assaillaient à cause de ses charges. Et grâce à lui, la compagnie s'est développée. Ça a été fantastique en Espagne. Il a fondé des collèges aussi en Italie, en Piémont. Il a créé une province romaine. En France, il a fondé 8 collèges, quand on pense aux 5 collèges des jésuites du Québec qui sont disparus, pour ainsi dire, pas vraiment disparus, mais qui n'ont plus. Il a obtenu pour les jésuites une situation bien meilleure partout, en Flandre, en Bohême, en Allemagne et au Tyrol même. C'est des succès partout. Il a institué une province polonaise. Imaginez, c'est fantastique. Et pendant les 7 ans de son gouvernement, Saint François de Borgia fut pour son ordre comme un second fondateur. Je vous l'avais dit. Il est un des grands artisans du renouveau catholique dans son siècle avec Saint Pie V et Saint Charles Borromée. Et ce fut Borgia qui a suggéré à Pie V de demander aux universités de Padoue et de Bologne en Italie de voir que toutes les universités catholiques soient vraiment catholiques par une profession de foi. Et en 1568, il a poussé le pape à créer une commission cardinaliste pour promouvoir la conversion de tous ceux qui avaient cessé de croire à l'Église catholique. Et c'était la future congrégation de la propagande qui a tant vu aux missions à travers le monde. Oh, on peut dire que c'est une... Les missions étaient mal organisées, que les missionnaires ont fait bien du tort. Les missionnaires ont fait beaucoup plus de bien que de tort. Je vous parlerai souvent des missionnaires pour vous dire jusqu'à quel point ils ont civilisé des générations de gens à travers les pays du monde entier pour en faire des êtres humains plus charitables, plus respectueux les uns des autres par la pratique de l'Évangile. En 1566, François de Borgia s'est révélé un stratège extraordinaire contre une peste qui avait éclaté. Le fléau, qui est reparu 2 ans plus tard, a encore été combattu par François de Borgia et les siens, les jésuites. C'est le pape qui a recouru à Borgia, parce qu'il était devenu comme une sorte de ministre de la Santé. Et en juin 1571, Pie V a demandé à Borgia d'accompagner son neveu, le cardinal Bonelli, dans une ambassade chargée de négocier une croisade. Pourquoi une croisade, hein? Mais c'est une croisade pour lutter contre les musulmans qui attaquaient l'Europe chrétienne de partout. Il faut pas oublier ces événements tragiques de notre histoire, hein. Il a accepté par obéissance. Alors Barcelone et Valence, en Espagne, ont fait un accueil enthousiaste à celui que la grâce avait métamorphosé. Et son passage était celui d'un homme qui apaisait et qui réconciliait, comme le Christ faisait quand il parcourait la Palestine ou le Liban. Et à Madrid, Philippe II l'a reçu avec grande marque d'estime. L'Inquisition, qui jadis avait cherché à le condamner un petit peu, là, à cause de textes dont je vous ai parlé, approuvait maintenant ses écrits authentiques, et François n'a pas voulu revoir son palais de Gandhi. Sur l'invitation du pape, Borgia est allé jusqu'en France, et l'hiver, le spectacle de dévastation qui était dû à toutes les guerres de religion là-bas, puis les guerres politiques surtout, ça lui a serré le cœur. Et à Blois, en France, Charles IX et Catherine de Médicis l'ont accueilli avec le plus grand respect, ainsi que le cardinal légat envoyé par le pape. Et Borgia est arrivé à Lyon malade. Il tenait à rentrer à Rome encore en vie. Alors là, il fallait qu'il passe les Alpes, ces montagnes épouvantables, dans la neige. Ça lui est extrêmement pénible. Mais les villageois de ces beaux petits villages des Alpes, j'espère que vous avez déjà vu ça, c'est bouleversant de voir ces gens qui vivent dans des décors extraordinaires. Comment ne pas croire à Dieu dans ces endroits magnifiques, hein? Alors les villageois couraient pour voir le saint, comme ils disaient. Et le duc de Ferrare, lui-même, a abrité durant 5 mois en Italie le pauvre malade qui était François de Borgia. 5 mois, depuis le 19 avril jusqu'au 3 septembre. Là, il a fait une petite halte à Lorette pour vénérer la fameuse maison de Lorette. Je vous parlerai de ça en parlant de Notre-Dame de Lorette un jour, je vous expliquerai. Et là, Saint-François de Borgia a atteint Rome le 28 septembre. On l'a porté dans sa cellule. Car ces généraux des jésuites vivent dans des cellules, ils vivent pas dans des palais, dans des cellules. Petite chambre. Où pendant 2 jours, les cardinaux qui étaient nombreux à Rome sont venus le visiter. Et François de Borgia est mort. Le 30 septembre 1572, un peu après minuit, autrement dit, il est mort le 1er octobre. Il avait été pour saint Ignace de Loyola un peu comme saint Bonaventure l'a été pour saint François d'Assise, un continuateur et en même temps un réformateur. Il a introduit dans la Compagnie de Jésus des nouveautés, notamment pour la formation des jeunes et pour leur raison mentale, car au moment de sa conversion, il pratiquait souvent jusqu'à 6 heures de raison mentale par jour. Il faut le faire, 6 heures. Dans bien des congrégations, aujourd'hui, les nouvelles congrégations pratiquent le raison mental au minimum 1 heure. Chez les carmes, c'est 2 heures. Dans d'autres congrégations, c'est 3 heures. Aujourd'hui même, en cette fin du XXe siècle, le raison mental, je vous le rappelle, cette mise en position pour être conscient jusqu'au très fond de son être de l'amour de Dieu, de sa tendresse, de sa bienveillance, pour nourrir en nous l'espérance, pour affermir la foi, pour nettoyer aussi les angoisses, les tourments, se libérer de son moi, faire place à Dieu, qui est le grand libérateur. Après quelques années de vie à Rome, où l'esprit de Saint-Ignace était demeuré vivace, François de Borgia en était venu à contrecarrer son ancien idéal personnel, par exemple sur la mortification. Il a dissuadé le pape Saint-Pie V d'introduire dans la compagnie de Jésus, des jésuites, des observances de type monastique, pour lesquelles François de Borgia avait eu d'abord un faible. Plus d'une fois, d'ailleurs, son zèle pour la régularité, la règle, s'est tempéré. Il est devenu beaucoup plus indulgent, plus compréhensif. Les grands convertis ont besoin de se transformer, comme ça, de devenir plus indulgents. Il a été pour les siens un vrai père, un père plein d'affection, bon, ferme, qui n'a laissé que des regrets. C'était pas un apathique, François. Il s'entendait mal avec le père Araoz, qui l'avait pourtant amené à une foi vivante. Et il s'emportait aussi parfois contre le fameux père Nadal, qui était un jésuite admirable. Il disait, vous ferez tant, je vous l'ai raconté tout à l'heure, vous ferez tant que je me retirerai dans une chartreuse un séjour. Mais il disait ça avec un peu de moquerie, hein, car il était humble. Il avait une grande condescendance. Et c'était le fruit de ses efforts secrets. Un grand, un riche, qui s'est fait pauvre malgré tous les honneurs et tout le pouvoir. Et en 1617, Madrid a reçu les restes de Borgia, de François de Borgia. En 1624, on a annoncé sa béatification et sa canonisation. Dans la ville de Madrid, on a célébré Saint François de Borgia avec une rare splendeur. Et au début de notre siècle, en 1901, la châsse, disons le reliquaire si vous préférez, cette immense boîte, souvent assez luxueuse, dans laquelle on renferme les restes, crâne, quelques ossements d'un saint, la châsse donc, de Saint François de Borgia a été placée dans l'église de la Compagnie de Jésus, les Jésuites à Madrid. Et sa fête, d'abord célébrée le 1er octobre, jour de sa mort, a été transférée au 10 octobre, aujourd'hui, par Innocent XI. Saint François de Borgia demeure un saint à imiter pour chacun d'entre nous, car nous sommes toutes riches des quelques petites richesses que nous avons, auxquelles nous sommes attachés comme si nous possédions le palais du duc de Gandhi. C'est un saint à imiter par le détachement, l'appauvrissement, pour faire place à une action profonde au nom de Jésus-Christ, pour transformer le monde. Il est le fondateur, François de Borgia, des missions de la Compagnie de Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure, en Amérique espagnole. Et un de ses biographes, Cienfuegos, le nomme l'apôtre de l'Occident. Pour ses missions dangereuses, François de Borgia n'a recruté que des volontaires. Il les entretenait longuement des périls qui les attendaient et de la grandeur de leur vocation. Éduquer, consoler, soigner, guérir, voilà leur tâche auprès des Amérindiens. Pas de hâte, écrit-il aux Jésuites du Pérou en 1567, ne cherchez pas des dangers inutiles. Si la mort vous est avantageuse, songez que l'œuvre des sujets envoyés est nécessaire. Et le 3 mars 1566, Philippe II demande que l'on envoie 24 Jésuites vers l'Amérique. Qu'est-ce qui arrive? Le père Pedro Martinez a à peine touché le sol de la Floride qu'il est massacré par les Amérindiens. Bel accueil. Des renforts sont envoyés, mais au bout de quelques mois, les missionnaires connaissent le même sort que le père Martinez. Alors le père Segura de Tolède, ami personnel de François de Borgia, le père de Quiros, le père Pedro de Linares, Cristobal Redondo, Gomez Villos, d'autres encore, tous proclamés plus tard, bienheureux, la mission de Floride doit être interrompu et l'effort est reporté alors sur le Mexique et le Pérou. Et de 1567 à 1570, 40 jésuites partent pour Lima. Et le général se préoccupe également des missions déjà établies en Orient et en Extrême-Orient. Il est au fond un peu le père, par le fait même, des missions jésuites de notre pays qui s'éteignent actuellement. Prions pour les jésuites et disons-leur notre reconnaissance.